et adapte avec une extrême flexibilité ses mécanismes de domination et de captation du surplus. Ainsi, à notre sens, la périodisation du capitalisme si doit de prendre en compte la succession historique des différentes configurations dominantes de l'accumulation du capital. Nous avons choisi, dans une première approximation, et nous pourrons revenir dans la discussion sur ces concepts, de qualifier ce niveau intermédiaire entre les concepts des modes de production et celui des modes de développement par les concepts des systèmes historiques d'accumulation. En résumant à l'extrême, il en résulte une périodisation du rapport capital-travail en trois étapes, périodisation qui ottoie une place centrale aux formes de la division du travail et du rapport savoir-pouvoir. La première est celle du capitalisme mercantiliste, sur laquelle je ne peux pas insister ici, même s'il présente de nombreuses analogies intéressantes avec la conjoncture historique actuelle, en particulier durant cette époque la soumission du travail au capital demeure formelle et elle va significativement de pair avec la prépondérance des mécanismes marchands et financiers d'accumulation. La deuxième étape est celle du capitalisme industriel et correspond à l'ouverture d'un sentier bien précis de régulation de l'économie de la connaissance et de la division du travail. Je vais en rappeler très brièvement quatre traits principaux. Le premier trait a trait à la généralisation lente mais progressive du salariat industriel et à sa concentration dans les manufactures et l'industrie. Le deuxième trait, la division du travail est caractérisée par une tendance lourde à la polarisation des savoirs et un processus de parcellisation, de qualification du travail d'exécution. La scission du travail intellectuel et du travail manuel va ainsi de pair avec une tendance lourde à l'expropriation des savoirs ouvriers et à l'incorporation du savoir dans les capitales fixes et l'organisation des firmes. Dans ce cadre, la soumission ou la subsomption du travail au capital devient réelle, puisque s'impose désormais de l'intérieur même du procès de production. Troisième trait, dans le capitalisme industriel, sulla base de cette logique de la division du travail, le critère principal de l'efficacité économique devient la recherche d'économie homogène du temps. Ce critère, qui sera aussi l'un des fondements de la théorie de la valeur temps de travail, si concrétise dans l'organisation du travail en termes de travail prescrit et de temps alloué, et suppose la séparation du travail de la subjectivité du travailleur. Ce critère sera également à l'origine de la construction d'un véritable clivage du temps. Ce clivage oppose le temps de travail direct, salarié, considéré comme le seul temps productif, aux autres temps sociaux consacrés alla formation et alla reproduction de la force de travail, considéré comme improductif, mais sur ces aspects, Delphine reviendra en plus de détails. Enfin, comme vous le savez, le capitalisme industriel, contrairement au capitalisme cognitif, repose sur le rôle moteur de l'accumulation du capital matériel et sur le rôle clé della grande usine manchesterienne puis fordiste spécialisée dans la production des masses et des biens standardisés. Finalement, le modèle de développement fordiste peut être considéré sur bien des aspects comme une sorte d'achèvement de ces tendances proprio au capitalisme industriel. Cependant, les antagonismes sécrétés internes au capitalisme industriel lui-même vont conduire à sa crise, à son dépassement, et cela au niveau même du développement de la division capitaliste du travail. La troisième étape est donc celle de la crise du capitalisme industriel et de la transition vers le capitalisme cognitif. Notons d'emblée que l'élément déterminant de cette transformation est loin de pouvoir être expliqué par un déterminisme technologique, qui ferait par exemple des nouvelles technologies de l'information et de la communication les facteurs principaux du passage à une nouvelle organisation de la division du travail et des rapports sociaux. Son point de départ se trouve au contraire, en mon sens, dans trois phénomènes clés au cœur de la crise sociale du rapport salarial fordiste. Premièrement, pour aller vite, la contestation de l'organisation scientifique du travail et de la norme de l'emploi salarié à plein temps et tout la vie durant. Deuxièmement, un processus de diffusion des savoirs engendré par le développement de la scolarisation des masses et la hausse du nouveau moyen de formation. Nous avons là ce qu'on peut appeler le début de constitution d'une intellectualité diffuse. C'est cette nouvelle qualité intellectuelle de la force de travail qui a conduit alla montée du travail intellectuel et au passage de la corporation muette du fordisme à la corporation communicante proprio in division cognitive du travail. Le troisième phénomène concerne quant à lui les conflits sociaux qui ont conduit à l'expansion du salaire socialisé et des services collectifs du welfare au-delà des compatibilités du modèle fordiste. Cette dynamique a été souvent interprétée, j'ai fait référence là à l'école de la régulation par exemple, comme un simple facteur de la crise du fordisme, lié à la hausse du coût social de reproduction de la force de travail. En revanche, nous pouvons affirmer, du moins a posteriori, que cette dynamique a posé deux conditions essentielles d'un essor d'une économie fondée sur la connaissance. Et cela pour deux raisons principales. La première raison est que les conditions sociales et les véritables secteurs moteurs d'une économie fondée sur la connaissance ne se trouvent pas dans les laboratoires privés de recherche et développement des entreprises, mais dans les institutions et les productions collectives du welfare state, c'est-à-dire santé, éducation, recherche publique, universitaire, etc. La deuxième raison est que l'expansion du salaire socialisé, retraite, indemnité de chômage, a permis une atténuation de la contrainte au rapport salariale et autoriser, du moins favoriser, l'accès aux mobilités choisies entre différentes formes de travail et d'activité. Il a correspondu en ce sens à une libération du temps, soustrait au capital, qui du point de vue du développement d'une économie fondée sur la savoir, si présente comme une force productive immédiate. Il faut souligner à cet égard un élément essentiel che d'après moi il a été souvent négligé, y compris dans les débats sulla réforme du système de retraite. La libération du temps libre, c'est-à-dire du temps soustrait au contrôle direct du capital, n'est pas un simple effet positif de la croissance de la productivité dans le secteur de l'économie officielle. La libération du temps libre a été aussi et surtout l'une des causes principales de la croissance de la productivité. Et cela en raison de ses effets directs et indirects sur la diffusion du savoir et la dimension cumulative de la production de connaissances. En ce sens, on peut avancer une première conclusion. Les mesures qui visent à imposer et à prolonger les temps de vie active et les années de cotisation, par exemple, ne sont pas un simple archaïsme bloquant la tendance de longue période à la baisse du temps de travail. Ces mesures, comme tous les dispositifs qui tendent aujourd'hui à accentuer la précarité de la force de travail, sont aussi des mécanismes institutionnels qui risquent de remettre en cause les ressorts les plus fondamentaux d'une économie fondée sur la connaissance. En somme, les conditions de l'essor d'une économie et d'une société fondée sulla diffusione e il rôle moteur du savoir se trouvent dans la puissance du travail vivant. Elle précède et s'oppose, tant d'un point de vue logique que historique, à l'événement du capitalisme cognitif. Nous avons là un point important que je tiens à souligner, y compris dans les débats sur les alternatives. La genèse du capitalisme cognitif est en grande partie une réponse au conflit qui durant les années 70 ont déterminé la crise sociale du modèle fordiste, en ébauchant dans le même mouvement les contours d'un modèle de développement alternatif, un modèle de développement fondé sur deux axes principaux. Premier axe, au moins deux axes. Premier axe, la socialisation du savoir, comme vecteur d'un dépassement de l'organisation fordiste du travail, et de l'expérimentation de formes alternatives du travail, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des entreprises. Deuxième axe, l'expansion du salaire social et des services collectifs et du welfare, en tant que secteur moteur d'un mode de développement non productiviste, fondé sur les productions intensives en connaissances et la primauté du non marchand. Il faut noter que ces deux axes anticipent sur bien des aspects les traits de ces modes de développement, parfois appelés anthropogénétiques, centrés sur les savoirs, les productions de l'homme pour l'homme, qui selon certains chercheurs, pourrait être par exemple un nouvel horizon ouvert par l'effondrement des mythes de la nouvelle économie et la crise du régime d'accumulation financiarisée. En somme, la transition vers le capitalisme cognitif est le produit d'une offensive du capital contre les mouvements sociaux qui durant les années 70 ont déterminé l'essor d'une intellectualité diffuse et ébauché les contours d'un modèle alternatif. Cette offensive s'appuie aujourd'hui sur un vaste processus de désocialisation de l'économie, voire une nouvelle phase d'accumulation primitive du capital, qui vise à mon sens trois objectifs essentiels, trois objectifs qui se trouvent en grande partie en contradiction avec les conditions sociales institutionnelles qui permettraient l'épanouissement d'une économie fondée sur la connaissance. Premier objectif, élargir la sphère marchande en colonisant progressivement les institutions du welfare et les biens communs représentés par les savoirs et les vivants. Deuxième objectif, accentuer la précarité et l'individualisation du rapport salarial, car le renforcement de la contrainte économique au rapport salarial devient une condition essentielle du contrôle de la mise au travail d'une force de travail de plus en plus autonome au niveau de la sphère de production. Troisième objectif, rompre l'unité de la figure productive de l'intellectualité diffusa et du travailleur du général intellect, Et cela en déterminant une segmentation artificielle entre deux composantes de la force de travail, une segmentation qui peut rappeler celle proposée par certains modèles de croissance endogène. Une première composante, appelée capital humain, correspondrait à une sorte d'aristocratie du travail intellectuel. Sa qualification serait reconnue et sa rémunération intégrerait, du moins en partie, une participation à dividendes de la plus-value du capital financier. Une deuxième composante, en revanche, verrait sa qualification par reconnue et sous le cadre à contrainte économique devrait assurer les emplois les plus précaires de la division cognitive du travail ainsi que les tâches néo-tayloristes des secteurs traditionnels peu innovants. Pour conclure, je dirais que la transition vers le capitalisme cognitif, loin d'éliminer les contradictions et les antagonismes, les déplace et dans une certaine mesure exacerbe les enjeux. Il fait émerger l'opposition entre deux modèles opposés. Je me bornerai ici à rappeler vite quelques dimensions où se manifestent ces contradictions et ces alternatives. Une première dimension concerne la manière dont la privatisation du savoir du vivant rend de plus en plus aiguë la contradiction entre les caractères sociaux de la production et les caractères privés de l'appropriation. En fait, dans la mesure où les coûts de reproduction deviennent intensifs en connaissance, sont très faibles, l'enjeu clé devient dans ce cadre la mise en place d'un système de droits de propriété intellectuelle permettant de construire artificiellement une rareté des ressources et des rentes de position. Nous avons là ce que Marx, mais peut-être aussi un Ricardo, qualifierait d'une stratégie visant à maintenir de manière forcée la primauté de la valeur d'échange contre la richesse, qui elle dépend de l'abondance de la valeur d'usage. La solution de ces contradictions permet de faire apparaître l'alternative entre deux modèles opposés de régulation d'une économie de la connaissance. Le premier correspond à un modèle de savoir fermé, qui au moyen des droits de propriété intellectuelle conduirait à une réflexion artificielle des ressources et un blocage de la dimension cumulative propre à l'économie de la connaissance. Le deuxième modèle, lui, correspond à un système de savoir ouvert, fondé sur le libre accès au savoir et la primauté d'une logique non marchande. Une deuxième dimension est la suivante. Dans le capitalisme cognitif, l'opposition classique travail mort, travail vivant, proprio capitalisme industriel, cède en quelque sorte la place à une nouvelle forme dell'antagonisme, celle entre le savoir mort du capitale e le savoir vivant du travail. Insomma, dans le capitalisme cognitif, la coopération du travail n'a plus besoin des fonctions di direzione du capitale, et cela peut conduire à la résurgence des tensions portant sur l'autodétermination de la production et les finalités sociales de la production, selon des modalités dont il conviendrait de discuter. Enfin, dans le capitalisme cognitif, le caractère de plus en plus social des mécanismes de la productivité et de l'innovation détermine, à mon sens, un déplacement du concept de travail productif, comme de celui d'exploitation. Les temps de travail immédiat consacrés directement à une activité de production durant l'horaire officiel du travail, n'est plus qu'une fraction, et même pas la plus importante, du temps social du travail. Le concept de travail productif et sa rémunération doit donc s'étendre à l'ensemble des temps sociaux et des activités qui participent à la création des valeurs et des richesses. Du point de vue même du développement d'une économie fondée sur la connaissance, la mise en place d'un revenu social garanti devrait être considérée comme étant à la fois un investissement collectif de la société dans les savoirs et un revenu primaire pour les individus, c'est-à-dire un salaire social issu directement de la production et non relevant de la distribution. Voilà, je vous remercie de votre attention, on pourra revenir. Je pense que...